progressing.
Je vous souhaite une bonne journée. Aujourd'hui, mercredi 16 avril 1980, voici le journal. Alain Bédoué, bonjour.
Bonjour.
1980, Ronald Reagan élu, John Lennon assassiné.
Mobile du crime, un autographe refusé.
Jean-Paul Sartre meurt le 16 avril 80.
Jean-Paul Sartre est mort hier soir à Paris. L'écrivain philosophe a succombé à un œdème du poumon.
Gérard Abbeville traverse l'Atlantique à la rame.
Bonsoir les enculés du pouvoir socialiste.
Année 80. Les radios sont libres.
Alors c'est bien Carbone 14, c'est reparti.
Alors on va être cambé dans le cul, hein.
Année 80, alerte au sida.
Une mystérieuse maladie qui a fait son apparition il y a environ 2 ans aux États-Unis.
Et toujours, l'URSS.
Le russe pilonne l'Amérique.
Année 80, victoire de Ronald Reagan.
America is back.
Pyramide du Louvre, action directe. Nouvelle-Calédonie.
Ici, les comités de lutte sont particulièrement actifs. Barrage, harcèlement des forces de l'ordre et intimidation des broussards.
L'entreprise récupère les libertaires.
Alors, Serge Juli, qui a été votre patron à Libération, alors, vous lui payez un sacré costume, hein, ça... Oh là 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 là.
Désamorcer toute révolte.
En mai 68, on a refait le monde. En mai 86, on refait la cuisine.
Pénétrez dans cet univers musical. Attention, 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 c'est à vous. Super.
Salut, c'est Daniel Mermet. Là-bas, si j'y suis avec Renaud Lambert. Année 80, retour en arrière.
Flight number 2, arriving from New York.
Le Minitel, touche pas à mon pote, charité business, les restos du cœur, le pen qui monte, le sida. La 5, le fric, les paillettes, le cynisme des ex-gauchistes parvenus au pouvoir et qui disent « En 68, nous nous sommes battus pour ne pas devenir ce que nous sommes devenus ». Comment s'est opéré ce grand renoncement qui nous colle toujours au basket et comment s'en débarrasser ? Eh bien d'abord, allez voir comment ce retournement a pu se produire et envahir et coloniser et inhiber toute une époque, la nôtre. Nous partons pour une petite excursion dans les années 80 avec François Cusset, auteur de la décennie Le cauchemar des années 80, Frédéric Lourdon, auteur de La vérité sauvera le monde, Serge Halimi, auteur de Quand la gauche essayait et Le grand bond en arrière, parce que nous avons tous en nous quelque chose des années 80. Jacques Séguéla, ce sera pour une autre fois.
Lorsque l'acte unique sera adopté par les 12, l'Europe va vraiment devenir une zone unique sans frontières,
un marché unique de 320 millions de consommateurs. Alors bien sûr, cela suppose de supprimer toutes sortes de barrières techniques, douanières. Au bout du compte, un marché trois fois grand comme celui du Japon.
Abattre les barrières, sans frontières, une Europe unie, tous ces mots sont vraiment merveilleux. Et je ne comprends pas pourquoi en 2005, les Français ont traîné les pieds, enfin ont même dit non, quoi.
Ah, moi je le sais parce que Serge Julie me l'a dit.
Ah
Oui, ils sont racistes, frileux et feignants. Donc c'est la raison. Non, ce qui est très intéressant là dans cette histoire d'acte unique, je
C'était le 20 novembre 1986.
Oui, 20 novembre 86. Ce qui est très intéressant, c'est que en deux coups déjà, on voit se dessiner l'une des tendances les plus profondes et les plus structurantes de la vie politique française, à savoir le grand accord, la grande convergence des partis gouvernementaux sur la question européenne. Alors là, c'est le truc qui va résister à absolument toutes les alternances, et qui d'ailleurs, c'est parce que c'est une question tellement profonde, et je le redis, tellement structurante, qu'elle va de fait rendre toutes ces alternances électorales absolument stériles, puisque ce seront des alternances sans alternative. Alors voici la séquence. Le lancement du processus qui doit conduire au grand marché, c'est le sommet de Fontainebleau 1984, Mitterrand est aux manettes. L'acte unique qui en est le produit est signé en 1986 par Jacques Chirac. 1992, le traité de Maastricht est négocié et signé par Bérégovoy, Dumas, Mitterrand. 1993, c'est Édouard Balladur qui réalise l'indépendance de la Banque de France, qui est une condition sine qua non pour entrer dans l'euro. 1995, c'est Juppé qui est aux manettes pour piloter la première phase de la qualification pour l'euro. 1997, ce sont DSK et Jospin qui vont assurer la deuxième phase. 1998, ce sont Chirac et Jospin, main dans la main, qui signeront le passage effectif à l'euro. Donc là, il y a un trait qu'on peut faire passer entre tous ces points qui est d'une remarquable continuité. Et Nicolas Sarkozy, qui cherche des tabous à détabouiser partout, il y en a un dont il ne s'occupe pas, en tout cas, c'est bien celui-ci.
C'est un pays extraordinaire ici, j'adore. N'importe qui peut y faire ce qu'il veut tant qu'il a les moyens de payer ses amis. Il leur faudrait ici, c'est une bonne vieille révolution, t'es pas d'accord ?
C'était cette nuit dans le quartier latin, un jeune homme de 22 ans est violemment frappé par des policiers, membres de la brigade mobile. Il décède d'un arrêt cardiaque. Le jeune Malik Ousekine était dialysé.
Un exemple Malik Ousekine.
Un point semble pourtant clair, il a bien été matraqué rue Monsieur le Prince alors qu'il tentait de se réfugier dans un immeuble poursuivi par les forces de l'ordre. Les policiers mis en cause font partie de ces brigades motorisées de la préfecture de police. Ce peloton voltigeur motocycliste était intervenu la nuit dernière au quartier latin à la suite d'incidents provoqués par des manifestants après l'évacuation de la Sorbonne par les forces de l'ordre. La mission de cette unité composée de volontaires est d'intervenir très vite et par surprise en impressionnant le plus possible l'adversaire pour le déstabiliser. Même si les coups ne sont pas officiellement la cause du décès de Malik Ousekine, un jeune homme de 22 ans est quand même mort ici dans des circonstances qui devront être éclaircies.
Alors ça, on est le 6 décembre 1986, c'est une archive d'Antenne 2, le décès de Malik Ousekine. Commentaire, François Cusset ?
Double commentaire. D'abord, il y a le rappel qu'en 1986, à l'époque où on croit que tout est fini, la politique, le pouvoir, l'économie, la bonne vieille violence policière existe toujours. Ça fait quand même 6 mois que la droite est au pouvoir et que le duo Pasqua-Pandreau a effectivement rétabli quelques belles traditions, comme ces pelotons voltigeurs motocyclistes datant de l'époque de la guerre d'Algérie et qui sont effectivement diablement efficaces. Mais au-delà de la mort tragique de Malik Ousekine, c'est évidemment le mouvement d'opposition à la loi de Vaquet. Moi, ce que j'ai noté en relisant la presse de l'époque, c'est la myopie incroyable de tous les observateurs. Vieux 68ard, rassis et devenu éditorialiste centriste ou de droite, moquant ces jeunes qui ne veulent pas de la sélection, mais ne veulent qu'une chose dans la vie, c'est un travail, un emploi. Donc, cette espèce de fin de l'héroïsme.
Réplique. Alain Finkielkraut.
Pour moi, ce mouvement n'a pas été révolutionnaire, certes, mais il n'a pas été non plus moral, utopique, comme on l'a défini, ou il a été surtout, et je ne trouve pas de meilleur mot, cucu.
Vision totalement fausse, puisque le mouvement d'opposition à la loi de Vaquet était extrêmement divers, varié. Il n'y avait pas qu'Isabelle Thomas, cette égérie socialiste, effectivement, dont le PS fera son héroïne dans les années suivantes. Ça allait, effectivement, de trotskistes enragés et d'anarchistes énervés, jusqu'à des gens, eux, tout à fait favorables à la sélection dans l'université. Donc, comme d'habitude, la presse, les idéologues dominants, et là il y a vraiment un saut de génération, ne comprennent pas ce qui se passe, sont déjà surpris que des jeunes prennent la rue, ce qui ne s'était pas vu depuis plusieurs années. Je dirais que le fossé entre ça et la violence de la répression policière, l'ampleur du mouvement, effectivement son dénouement tragique, puisque le lendemain de la mort de Mani Koutchekine, il y a une grande manifestation silencieuse, et le retrait du projet de loi hein, par Chirac, ça prouve bien que voilà, il y a deux France qui ne se comprennent plus à ce moment-là. Je ne sais pas si c'est une question de génération ou de classe, mais.
J'ai décidé de retirer l'actuel projet de loi. J'ai demandé au ministre de l'Éducation nationale d'engager immédiatement une large concertation permettant d'adapter les universités françaises à l'évolution du monde moderne, aux aspirations légitimes de la jeunesse, tant dans le domaine culturel que dans le domaine de l'emploi, et aux ambitions de notre pays.
Vous avez traversé le siècle, vous avez eu des fléchettes qui étaient des idées, ça a été le temps de Gurdjieff, ça a été aussi le temps de la nouvelle droite, oui, ça a été ensuite le temps du sida mental. Vous vous rendiez compte de tout ce qui passait?
Voilà, c'est le 7 juin 1989, au micro de Jacques Chancel, Radioscopie, Louis Poel s'exprime et s'explique sur cette affaire du sida mental.
Mais le sida mental, ça vous a échappé quand même.
Écoutez, là, il faut s'expliquer sur le sida mental. Malheureusement, c'est devenu un mot historique. Moi, je connais bien ce qu'est la jeunesse démunie. Je n'ai pas dit d'ailleurs dans cet article, ce fameux article, que toute la jeunesse était atteinte de sida mental. J'aurais été fou. J'avais en vue des jeunes démunis dans leur milieu familial, par l'échec scolaire, et à qui ne restait que l'environnement sous-médiatique, sous-culture, sous-sous-culture américaine. Et je savais que ceux-là perdaient en effet leurs immunités morales naturelles. Le mot sida, ce sont des initiales qui signifient une maladie de perte des immunités. J'ai dit exactement ce que je voulais dire. Malheureusement, lorsque cet article est paru, le lendemain, est mort un pauvre garçon qui était Mali Koutchekine, et toute une campagne nationale et internationale s'est déchaînée à mon propos. Je ne regrette pas la formulation. Je crois qu'il faut se battre pour des idées quand on croit à des idées. Je crois, par exemple, à l'économie libérale. Je crois qu'il faut conserver un certain nombre de valeurs. Et donc, il est bon d'être polémiste. De temps en temps, emporté par les mots, au lieu d'être polémiste, on est pamphlétaire. Parfois, j'ai été un peu trop pamphlétaire. Je ne regrette pas d'avoir été polémiste et je le demeure.
François Cusset.
C'est curieux d'ailleurs de l'entendre dire qu'il connaît bien ce qu'est la jeunesse démunie. Je ne sais pas où il l'a rencontré. Non, je crois qu'il y a... Il y a deux lectures. La lecture évidente qui a été faite sur le moment d'où le tollé qu'a suscité cet article, là où il parlait du sida mental des jeunes, est une lecture droite contre gauche, vieille droite rance de grande bourgeoisie du Figaro, insultant la jeunesse rebelle et courageuse, elle naturellement de gauche. Je pense qu'il y a une autre lecture.
Cultivé, Powell, hein, cultivé.
Cultivé, érudit, bien sûr.
Du panache, du sens du pamphlet.
Tout à fait, qui d'ailleurs revendique
un certain courage.
Ah, c'est sûr qu'il s'est trouvé assez seul.
Du mal à trouver aujourd'hui.
Dans ce moment. On pourrait dire ça. Non, mais moi je dirais qu'au-delà de cette lecture droite-gauche, c'est bien plutôt une vision justement biologique du politique, et elle venant d'années beaucoup plus sombres du siècle, quand il parle d'immunité morale, quand il lit le politique dans des termes physiologiques, je crois qu'il y a là une hystérie conservatrice qui traverse l'échiquier droite-gauche, me semble-t-il, et dans laquelle se retrouvent certains éditorialistes de gauche ou dits de gauche ou de centre-gauche au même moment.
Et ça, ça fait partie de ce que vous appelez le cauchemar des années 80.
Ah bah, c'en est une des formulations, oui, les plus flagrantes. Voilà, ce genre de propos disent un peu les tensions latentes de l'époque.
Antenne de 20h, le journal de la rédaction, Henri Sagnier.
Bonsoir et merci d'être fidèle au journal d'Antenne 2. À la une ce soir, le retournement de tendance sur les marchés financiers internationaux. Hausse de 0,8% à la Bourse de Paris. À New York, Wall Street s'est ressaisie après la panique d'hier soir. Dans quelques instants, analyse et commentaires en compagnie de Philippe Sassier, notre spécialiste, et de nos correspondants à l'étranger.
On risque d'avoir des développements au moins aussi graves. Parce que les déséquilibres fondamentaux du monde et de l'économie américaine, les deux sont liés, sont infiniment plus importants qu'ils n'étaient en 1929.
Qui aujourd'hui, Frédéric Lordon, se souvient de ce crack de Wall Street du 19 novembre 1987 ?
Ah, pas mal de monde quand même, hein, parce que ça leur a rougi les fesses, hein, cette affaire. Ça, vraiment, là, ils avaient dégusté. Non, et puis en plus, ça avait le bon goût d'être tombé un jeudi d'octobre. Et le dernier, voilà, et donc le fameux jeudi d'octobre comme 1929. C'est ça le truc intéressant d'ailleurs, c'est que 1987 c'est le crack, mais 1986 la déréglementation financière est passée par là. Les marchés financiers qui étaient tout étriqués, la bourse qui était croupion, qui vivotait, particulièrement depuis qu'on avait retiré de la cote les grandes entreprises du fait de la nationalisation. Ces pauvres gars, ils se battaient les flancs, c'était terrible. Mais là voilà, on reprivatise et puis on ouvre les marchés financiers. Alors c'est l'euphorie, c'est la joie, les clubs d'investissement et tout le tremblement. Et 1987, c'est le mélange toxique de la déréglementation financière et des privatisations. Pourquoi ? Parce que les privatisations propulsent sur les marchés financiers des petits épargnants qu'on a achalandés avec les pires arguments possibles, c'est l'Eldorado à tous les coups l'on gagne, sur des marchés financiers dont la principale propriété est leur extraordinaire instabilité. Du coup, nous allons renouer avec un certain type d'événement historique qu'on n'avait plus connu depuis presque 60 ans, puisque en effet, le dernier krach remontait à 1929, tout de même, une paye, n'est-ce pas ? Alors l'interaction des deux, ça va être tout à fait prodigieux, puisque les privatisations commencent vraiment sous les flonflons. Moi, j'ai encore dans l'oreille madame, monsieur, la pub qui nous annonçait la privatisation de Paris. On voyait sous fou rire la porte de bois ouvragée de la rue d'Antin, ça débouchait sur l'orangerie. C'était absolument merveilleux. Tous les bijoux de famille les plus reluisants ont été passés à la privatisation et ça marchait du tonnerre. Les émissions étaient sursouscrites, c'était vraiment formidable. Alors, vient le tour de la compagnie financière de Suez. Après Madame, Monsieur, etc., il faut trouver un truc vraiment là pour les faire venir. Alors, on va chercher Catherine Deneuve.
Quand on vous dit Suez, si vous pensez Deneuve, c'est que la coûteuse campagne de publicité que s'est offert le groupe pour fêter son retour au privé a déjà porté ses fruits.
Bientôt, vous pourrez devenir actionnaire du groupe Suez. Réfléchissez.
Catherine Deneuve fait l'article pour la privatisation d'Indosuez.
Vous alliez dire tapine et puis vous avez...
Oh non, ça c'est vraiment... Là, ça c'est pas vrai, ça même pas effleuré mon palais. Mais là, non. malheur.
Les Français préfèrent.
Oui, bien sûr, je les comprends d'ailleurs. Catherine Deneuve n'avait pas si tôt parlé que badaboum, la bourse perd 20% en une seule journée. Évidemment, c'est terrible. Alors, on parlait il y a un instant de la pédagogie boursière. En matière de bourse, il y a aussi la pédagogie du réel. Et celle-là, ça va être la première leçon administrée aux petits épargnants et elle va être sacrément cuisante.
Dans cette affaire, ceux qui auront le plus perdu, les petits épargnants. C'est la première année que j'investis en bourse. J'ai tout perdu, $80,000.
Le malheur, c'est qu'il va y en avoir d'autres après. Et même assez nombreuses, on n'en voit pas le bout. Hein. Et ce sont les mêmes mécanismes qui sont à l'œuvre implacablement en vertu de la logique qui veut que les mêmes causes entraînent les mêmes effets.
While our beds are burning.
Nous avons le sourire ce soir. Nous avons le sourire ce soir, vous aussi, je le sais. Depuis notre premier bonsoir, c'était hier à 20h précis, il y a 24h44, il s'est passé un événement considérable dans l'histoire de la télévision française. Alors que pour la première fois, une chaîne de télévision et de service public tentait de faire aussi bien que les Américains en organisant un télémarathon de plus de 24 heures pour une cause, une maladie mal connue, nous pouvons vous dire avec Claude que nous avons déjà battu toute proportion gardée. En tenant compte du nombre de téléspectateurs d'outre-Atlantique et du nombre de téléspectateurs français, nous avons battu le record des Américains.
Voilà, faire aussi bien que les Américains, c'était le 5 décembre 1987 sur la 2 chaîne publique où Michel Drucker lance le premier Téléthon. François Cusset, la compassion médiatique, c'est pas exclusif aux années 80, ça a commencé bien avant.
Ah non, si, c'est vraiment...
Ça se développe à ce moment-là.
L'humanitaire, à cette échelle-là, dans cette version consensuelle et masse médiatique, est une invention du tournant de la décennie 80, quoi, enfin 79-80, avec l'opération Un bateau pour le Vietnam. Et il faut la télé privée, la télé à paillettes, la télé, effectivement, de la deuxième moitié des années 80, pour donner toute son ampleur à ce genre de phénomène. Donc, il ne me semble pas que ça existe avant, sous cette forme, en tout cas.
Frédéric Lordon.
Je voulais rajouter simplement un petit mot. C'est quand même, effectivement, je suis d'accord avec François, c'est-à-dire c'est une innovation des années 80 et c'est le lancement de la grande dynamique de la dépolitisation, c'est-à-dire du contournement du politique par le caritatif, humanitaire, moral, qui laisse, à chaque fois qu'on est confronté à ce genre d'événement, dans une sensation de malaise et d'ambivalence, parce qu'il est difficile de dire ouvertement « je suis contre le Téléthon », alors même que la multiplication de ce type d'opération conduit à soustraire des choix de financement de recherche, notamment médicale, de la délibération collective qui a lieu dans les instances politiques. Alors évidemment, ça aussi, c'est un petit problème tout de même.
Étoile des neiges. Je n'ai pas changé d'adresse.
Qu'est-ce qui monte, qui rime avec toujours? C'est la mer, c'est l'amour.
Quand t'es venu dans la rue inconnue, tu savais pas où t'allais.
Comme un ouragan qui est passé sur moi.
J'ai goût de la mer, dans son dessus.
Je suis de bonne.
Ici à Bruxelles, les quotidiens ne se contentent pas de rapporter par le détail l'événement d'hier, qualifié d'historique. Dans leur ensemble, et quelle que soit leur orientation politique, ils applaudissent plutôt la réélection de François Mitterrand. Sous le titre « La génération Mitterrand a gagné », le soir de Bruxelles évoque une vague sereine, plus soucieuse du bon sens commun que de gloire gaulienne ou d'activisme chiracien. SIC, la catholique libre Belgique parle de président rassembleur, le rassemblement et la nécessité de gouverner au centre, étant d'ailleurs les thèmes les plus exploités par la presse ce matin. Jacques Chirac, qualifié de beau joueur, se voit quant à lui décerné de bons points pour sa politique économique, dont, comme le souligne la libérale dernière heure Les Sports, la France tonton maniaque devra tenir compte. Bruxelles, Daniel Deloye, France Inter.
Alors voilà, ça c'est un document du 9 mai 1988, la réélection de François Mitterrand à 54% et les approbations de Bruxelles. Je voudrais qu'on revienne un tout petit peu en arrière parce qu'on a arpenté très rapidement, on a enjambé l'année 87 un peu rapidement. Il faudra quand même ne pas oublier Le Pen et son détail hein, en septembre 87 sur RTL, ce qui n'était pas rien.
Et je ne dis pas que les chambres à gaz n'ont pas existé. Je n'ai pas pu moi-même en voir, je n'ai pas étudié spécialement la question, mais je crois que c'est un point de détail de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale.
Mais vous mettez en doute...
C'est un point de détail.
Non, mais est-ce que
6
c'est...
6 millions de morts.
Est-ce que vous affirmez... Non, pardon.
Je l'ai compris, mais...
Non, mais 6 millions de morts, comment c'est...
Juifs. Oui. La Seconde Guerre mondiale, vous considérez que c'est un point de détail?
Non, c'est la question qui a été posée, c'est de savoir comment ces gens ont été tués ou non, n'est-ce pas?
Oui, c'était pas un point de détail, quand même.
Si, c'est un point de détail, je veux dire de la guerre, oui. Enfin, écoutez, est-ce que c'est... Voulez-vous me dire que c'est une vérité révélée à laquelle tout le monde doit croire? C'est une obligation morale.
Le Pen qui s'exprime à Dreux en 87.
Eh bien, nous sommes prêts à des alliances dans le cadre d'un choix de société qui est évidemment le même que celui de l'opposition libérale, même si nous avons des positions assez différentes sur un certain nombre de problèmes.
Et UVA, 22 avril 88, juste avant cette réélection de François Mitterrand.
Trois gendarmes massacrés à l'arme blanche en Nouvelle-Calédonie, 27 autres séquestrés quelque part dans la brousse sur l'île d'Ouvéa. C'est le bilan de l'opération Commando, menée très tôt ce matin par les indépendantistes kanak.
Donc on enjambe un petit peu les événements. On ne peut pas détailler jour par jour ces années 80. Sur la réélection de Mitterrand, qui veut commenter ?
Ce qui est intéressant, c'est que Mitterrand, avec donc réélu à plus de 54%, tire les fruits à la fois du tournant social-libéral de 83-84, d'une stratégie extrêmement fine et maligne de gestion de la cohabitation. Et finalement, ce que ça signifie, c'est que la France se dit désormais une république du centre, selon le titre d'un best-seller qui paraît cette année-là, écrit par les trois chefs de file de la Fondation Saint-Simon, Jacques Julliard, Pierre Rosanvallon et François Furet, qui disent qu'après un siècle et demi de polarité politique forte et de sociale, ils parlent de la fin du social, la France peut enfin être gouvernée au centre. Et à regarder même le
ça,
débat...
Ça nous dit quelque chose pour aujourd'hui. Hein
oui, mais à regarder le débat... Parle. C'est purement stratégique, parce que si on regarde le débat présidentiel Mitterrand-Chirac, qui est alors un morceau de bravoure, enfin, qui est superbe, on se rend compte que Chirac a l'air d'un idéologue, d'une sorte de dinosaure de l'âge politique et idéologique, cet âge révolu, c'est-à-dire qu'il a quelques idées à défendre et un programme qui a l'air spécifique, là où Mitterrand ne lui parle que continuité historique, continuité de la République, union, consensus, paix sociale, bref, celui qui, arrivant à couvrir le spectre qui va de l'extrême droite à l'extrême gauche, garantira à la France cet ordre sans lequel les marchés ne seraient pas satisfaits. Donc effectivement, que Mitterrand soit applaudi par Bruxelles et par la Bourse est normal. Il signifie que la France est plus au centre qu'elle ne l'a jamais été. L'ironie de l'histoire étant bien sûr que dans les années qui suivent, elle le sera moins.
Je crois qu'il y a, Serge Halimi.
Il y a deux grosses différences entre l'élection de 81 et la réélection de 88. Une qu'on a déjà signalée, qui est évidemment la réaction de la Bourse, qui panique en 81 et qui salue la réélection de François Mitterrand en 1988. L'autre grande différence, elle apparaît à travers le slogan qui est « Génération Mitterrand ». Entre-temps, le pouvoir, y compris le pouvoir de gauche, surtout le pouvoir de gauche, s'est extraordinairement personnalisé. Quand François Mitterrand arrive au pouvoir en 1981, l'un des slogans de sa campagne, c'était quelque chose du genre « Le premier désir de la droite, garder le pouvoir, ma première ambition, vous le rendre ». Et il arrive au pouvoir, en quelque sorte, poussé par un mouvement populaire sur la base d'un programme politique avec des ambitions collectives. Quand il revient au pouvoir, c'est vraiment l'engouement individuel, la génération Mitterrand. Si vous voulez, la gauche a disparu dans la lettre aux Français qu'il adressera personnellement, qui est sa propre écriture, qui ne sera pas avalisée par le Parti socialiste ou par le Parti communiste ou par quelque structure que ce soit. Dans cette lettre, on ne voit pas une seule fois apparaître le mot « socialisme ». Et dans cette lettre, il y a tout ce qui, en quelque sorte, débouchera sur la politique économique des années suivantes, cette espèce de stabilisation libérale, là où elle est, ni privatisation ni nationalisation, qui permet surtout, compte tenu du fait que François Mitterrand est quand même le candidat de la gauche, de signaler qu'il n'y aura pas de nationalisation. On n'attend pas encore, à l'époque de lui, des privatisations. Donc c'est en quelque sorte un engagement conservateur. Et je crois que là, c'est les deux grosses différences. D'une part, la réaction de la Bourse, et d'autre part, ce pouvoir personnalisé à tel point que la réélection de Mitterrand, on se demande si c'est vraiment une victoire de la gauche, ou si c'est pas davantage la victoire d'un homme.
Pour savoir où va une présidence, en effet, demandez-vous par qui elle est saluée, c'est-à-dire de qui le président réélu est-il l'ami. Il est l'ami de Bruxelles et il est l'ami de la Bourse, on vient de le dire. Il est l'ami de Bruxelles, ça n'a rien d'étonnant, ça on l'a déjà vu dans une tranche précédente. Mitterrand a remis la France dans les clous européens en 1983. Il a négocié le sommet de Fontainebleau et la relance vers le grand marché qui finira en acte unique signé par Jacques Chirac. Et d'une certaine manière, il lance cette grande dynamique absolument continue, transalternance, transpartisane, qui va voir se succéder les gouvernements de gauche, de droite, mais tous fidèles à l'orientation européenne. Pas de surprise là. Salué par la bourse, bien sûr, parce que à partir de 1983, le socialisme de gouvernement est le meilleur ami de la finance. Il fait la déréglementation de 1986, il multiplie les encouragements par voie d'incitation fiscale à l'orientation de l'épargne des Français vers les produits d'action, les PEA, c'est quand même une grande affaire socialiste. Les socialistes apporteront leur écho aux privatisations et même plus que leur écho avec Lionel Jospin un peu plus tard. Ils chanteront glorification et défiscalisation des stock-options avec Strauss-Kahn. Ils institueront l'épargne salariale financiarisée qui sera une amorce de fonds de pension avec Laurent Fabius en 2001. C'est vraiment très très grave. La financiarisation sera complètement achevée et malheureusement, je le crains, irréversible.
Serge Limy.
Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'au lendemain de l'élection de François Mitterrand, il va intervenir un élargissement de la majorité au centre, pour ne pas dire au centre droit, avec des personnalités associées au giscardisme comme Lionel Stoléru ou Olivier Stirne. Élargissement qui n'est même pas nécessaire, qui a été en quelque sorte provoqué par une déclaration de Mitterrand, faisant savoir qu'il ne souhaitait pas que les socialistes aient seule la majorité à l'Assemblée nationale et qu'il serait bon qu'ils doivent former une coalition avec des partis ou en tout cas avec des personnalités du centre.
En vous écoutant tous les trois là, parce qu'on a tous les quatre vécu, et puis beaucoup d'auditeurs ont vécu quand même ces années-là.
Survécu
à ces années-là. On se dit mais que pensions-nous à l'époque? Que disions-nous à l'époque? Que pensaient les? Est-ce que les Français se rendaient compte de ce qui leur arrivait là sur cette élection? Est-ce qu'ils ont cru réélire un homme de gauche ou, comme le dit Halimi, réélire Mitterrand?
C'est d'abord un problème de recul. On ne sait jamais ce qui nous arrive au présent, et puis on ne sait pas à quel moment ça passe à l'échelle de l'histoire. En revanche, c'est vrai que ce que disait Serge Halimi est vrai. Il y a une personnalisation de la politique à tel point que le personnage de Mitterrand, patelin, à la fois royal et assez proche, paternel ou avanculaire, parce que c'est plutôt une figure d'oncle, c'est tonton. Hein. C'est d'ailleurs l'année où on commence à l'appeler tonton et où au bébé de show de TF1, il devient effectivement la star, la grenouille. On a effectivement à cette époque l'impression que le désarroi politique et idéologique est tel qu'il y a un effet psychologisant, rassurant de petit père des peuples de Mitterrand, qui a un effet psychologique à mon avis inquantifiable mais énorme, qui explique beaucoup, enfin qui explique aussi ce raz-de-marée, parce que après tout les déçus de la gauche, qu'on appelle les déçus de la gauche, ils existent déjà, ils ont déjà eu le temps d'être déçus hein, en 7 ans. Il y a quand même eu une casse sociale et un doublement du taux de chômage qui fait que les socialistes auraient dû quand même voir leur électorat rongé. Donc je pense qu'il y a là une sorte de réflexe personnalisant, on se rassure autour de cette figure de Mitterrand.
Au demeurant, lorsque la droite revient au pouvoir en 1986, c'est une droite extraordinairement à droite, qui ne correspond pas à ce qu'on avait connu précédemment, et va donc se constituer contre cette droite autour de François Mitterrand, faute de mieux, mais il est là. Et il semble être en mesure de barrer la route à Chirac, une espèce de réaction défensive à ce que cette droite a révélé d'elle-même pendant ces 2 ans. Il faut se souvenir que le discours d'investiture de Jacques Chirac en 1986 devant l'Assemblée nationale est l'une des déclarations les plus ultra-conservatrices de l'histoire politique française. Là, c'est une affirmation reaganienne. D'ailleurs, Reagan et Thatcher sont les modèles de la droite française à cette époque. Donc, il va se constituer en forme, en quelque sorte, de défense, de réaction à cette droite. Un soutien à François Mitterrand. Beaucoup de gens ont compris que ça n'était pas le président de gauche qu'ils espéraient en 1981. Mais ils se disent, devant la tempête, fou qui fait le délicat.
Mais est-ce qu'au fond, est-ce que la France, à ce moment-là, est au centre? Est-ce que c'est la fin de la bipolarité?
Elle est assoupie politiquement et sociologiquement en partie par les discours qui lui sont tenus sur la fin des polarités de classe, la nécessité de l'entreprise, le consensus sur l'Europe et sur les marchés. Ce paysage-là de la République du centre est faux. En revanche, les médias y croient tellement ou ont tellement envie d'y croire et en font tellement état qu'il y a un effet un peu, vous savez, de prophétie autoréalisatrice où effectivement les gens se pensent au centre, ce qui évidemment jouera à terme en faveur des votes extrêmes, c'est-à-dire d'une réaction d'électeurs qui, eux, se repolitisent, considérant que tout ça est évidemment un grand mensonge, ce qui favorisera finalement à terme, à long terme, l'extrême-gauche pour d'autres raisons qui sont la fin des années 90 et à court terme, le vote Le Pen qui continuera d'augmenter.
Est-ce qu'on peut faire des rapprochements avec aujourd'hui? la situation dans laquelle on se trouve.
C'est-à-dire que le terme même que vous avez employé, le centre, est un terme extraordinairement discutable, parce que lorsqu'on voit ce que sont les politiques économiques et financières qu'a évoqué Frédéric Lordon, ce sont des politiques qui, 15 ans plus tôt, auraient été perçues comme de droite dure, quoi. C'était des politiques économiques que même Valéry Giscard d'Estaing ou Raymond Barre n'auraient pas pu mettre en œuvre. Donc le centre s'est considérablement déplacé à droite.
Ah ben non, c'est la droite qui est allée au centre, le monde va vers la gauche.
Oui, ça c'est la présentation.
Mais ce qui est drôle, c'est que le même Mitterrand disait dans une interview à la fin des années 70, quand on l'interrogeait justement sur la possibilité de gouverner au centre, il s'énervait contre cette notion sempiternelle de centre impossible en France, et il disait « En France, le centre a toujours été à droite ». Cette phrase, on aurait dû effectivement la mettre en banderole au-dessus de l'Élysée le lendemain de son élection de 88. Quoi.
Tu trouves ça rigolo ?
Oui, rigolo. Hein ? Rainman, il a les dents rigolotes.
Rainman ?
Oui.
J'ai dit Rainman ?
Oui, il est rigolo, Rainman.
Et puis, des noisettes en moins pour l'écureuil, et cela en partie à cause des privatisations. Les épargnants ont délaissé les livrets A de la Caisse d'épargne. Des mesures d'encouragement pourraient être annoncées dès aujourd'hui par M. Balladur, avec un relèvement du plafond des dépôts et une hausse des rémunérations. La météo, chaud, beau, partout.
Qui joue en première base ? Qui, le nom du type qui joue en première base ? Qui joue en première dans l'équipe de Saint-Louis ?
Prison bloquée, commissariat submergé, procès reporté comme celui d'Action Directe.
Qui joue en première base ? Qui, le nom du type qui joue en première base ?
PTT, transport urbain, Air France, Sécurité sociale, EDF. À peine un feu s'éteint qu'un autre s'allume. Toujours les mêmes revendications.
Qui joue en première base ? Qui, le nom du type qui joue en première base ?
Salaire, conditions de travail. La rigueur passe moins bien quand l'économie va mieux.
Qui joue en première dans l'équipe de Saint-Louis ? Qui ? Pourquoi tu me demandes ça ?
Pourquoi il fait ça ? Quand il est nerveux, il récite qui est en première base.
Qui joue en première base ? Qui ? Le nom du type qui joue en première base ? Qui joue en première dans l'équipe de Saint-Louis ?
Politique. Après les hommes de l'ouverture, voici les dossiers clés de l'ouverture. Ce matin, en Conseil des ministres, le gouvernement a présenté les deux projets de loi qui vont sans doute dominer la vie politique française dans les mois à venir. D'un côté, l'ISF, l'impôt de solidarité sur la fortune. De l'autre, le revenu minimum d'insertion. Un coup d'œil sur les textes, en compagnie de Claire Chazal et de Christophe Martet. Ensuite, nous évoquerons les enjeux politiques.
L'impôt de solidarité sur la fortune devrait concerner environ 120 000 personnes. L'ISF devrait rapporter environ 4 milliards de francs à l'État.
Cet impôt de solidarité sur la fortune doit financer en partie, pour la moitié environ, le revenu minimum d'insertion.
Ce sont les préfets qui distribueront ce revenu aux 500 000 Français les plus pauvres.
Une personne seule touchera 2 000 francs par mois, auxquels pourront s'ajouter 1 000 francs pour une autre personne du ménage et 600 francs par enfant à charge.
Voilà, là on est content quand même, c'est le 13 juillet 1988, on a l'ISF, 4 milliards de francs qui vont être attribués aux pauvres. On prend aux riches pour donner aux pauvres, de quoi se plaint-on ?
Ce qui est intéressant, c'est que on parle à ce moment-là des exclus, et c'est la première fois dans les débats politiques français que ce mot désormais hyper courant apparaît. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il remplace les pauvres, les nouveaux pauvres, les prolétaires. On a ce terme d'exclus qui est très intéressant parce que littéralement, il dit bien qu'il y a cette espèce au centre, cette machine sociale qui serait la classe moyenne, ceux qui se réalisent par le travail et leur vie sociale, et puis ceux qui en sont exclus, que quelques mécanismes régulateurs vont tenter de réintégrer. Mais cette espèce de dialectique du dedans et du dehors, de l'intégration et de l'exclu, apparaît à ce moment-là. C'est un moment effectivement clé, parce qu'en gros, la façon dont on parle de la pauvreté aujourd'hui date exactement de ces débats de 88 sur le RMI.
Frédéric Lordon.
Oui, il faut se souvenir tout de même que parmi les facteurs qui ont causé la défaite électorale de la droite en 88, il y a eu la très maladroite suppression de l'IGF, impôt sur les grandes fortunes, ancêtre de l'ISF, par Jacques Chirac, qui s'en est mordu les doigts longtemps après. Alors évidemment, la recréation d'un impôt équivalent sous le nom un peu différent d'ISF apparaît comme une reconquête de gauche absolument magnifique. Et comme vous le disiez, on prend aux riches pour redistribuer aux pauvres. Il faudrait être bête pour s'opposer à une si bonne politique socialiste. Évidemment, avec peu de recul, on pouvait s'apercevoir qu'on entrait là dans le registre de l'alibi et de la verroterie de la politique fiscale, c'est-à-dire de la gesticulation symbolique qui redistribue des masses masse financière finalement de volume extrêmement maigre et qui permettent de faire passer en contrebande toute une série d'autres choses qui alors là pèsent singulièrement plus, comme la désindexation des salaires à laquelle on a procédé entre 1983 et 1986, l'explosion des revenus financiers, etc. etc. Et ça va tout à fait bon train. On pourrait observer néanmoins que dans cette logique de l'alibi et de la verroterie, il y avait finalement deux instruments. Il y avait la redistribution fiscale de troisième ordre et puis il y avait des efforts quand même qui étaient consentis par la gauche pour faire bonne figure sur le terrain des mœurs sociétales, culturelles, etc. Or, que verra-t-on au bout de quelques années, c'est-à-dire lorsque la gauche reviendra au pouvoir à partir de 1997, c'est que ne restera plus que le deuxième instrument, celui des mœurs, et finalement, ça n'est plus qu'avec le Pax qu'on achètera la tranquillité sociale. Même l'instrument fiscal aura été mis au rebut, puisque, comme vous le savez, la gauche reviendra armée de très bonnes dispositions orthodoxes, selon lesquelles augmenter les impôts, ça nuit à la croissance. Donc, pour ce qui est des redistributions, vous repasserez.
C'est le grand bond en arrière.
Disons en tout cas que les accomplissements de la gauche sont singulièrement revus à la baisse avec le temps. En 36, on avait eu les congés payés, les 40 heures et l'office du blé. En 44-46, on avait eu la sécurité sociale. En 81, une augmentation substantielle du salaire minimum, de la dépense publique, les nationalisations. Là, en 88, alors bon, vous allez avoir quelque chose, mais regardez bien, ça va pas durer longtemps. Vous avez le RMI et la Nouvelle-Calédonie. Et puis après, une fois qu'on a fait ça, on peut pratiquer une politique qui, elle, est beaucoup plus traditionnelle, orthodoxe, pour ne pas dire conservatrice.
Stop.
Merci à toutes et à tous. C'était le cinquième volet de la série La décennie, le cauchemar des années 80. On continue demain parce que cette série présentée une première fois en 2007 est revue aujourd'hui vous intéresse et vous passionne. Merci à François Cusset, à Frédéric Lordon et à Serge Halimi, à lire et à relire et à réciter par cœur le bouquin de Guy Hockenheim aux éditions Agon, Lettre ouverte à ceux qui sont passés du Colmao au Rotary, le bouquin d'Halimi, Le grand bond en arrière, comment l'ordre libéral s'est imposé au monde. Et puis un bouquin de Lordon, de Frédéric Lordon, Fonds de pension, piège à con, Mirage de la démocratie actionnariale, et d'autres ouvrages, évidemment, du grand professeur Lordon, à lire et à relire et à réciter par cœur. Et puis, bien sûr, le bouquin de François Cusset, La décennie, le cauchemar des années 80. Vous retrouvez toutes les informations sur le site de France Inter, à la rubrique émission « Là-bas si j'y suis », sur le site labas.org, la-bas.org, ainsi que sur notre page Facebook. À la technique aujourd'hui, Defar Guéride et Jean-Philippe Jeanne, c'est Bertrand Chometon et Franck Aderer qui ont réalisé cette version. La précédente, c'était Yann Chouquet et Koy Nguyen, vous vous en souvenez, sans doute peut-être. Assistante Marina Touyez et Grégory Salomonovitch attend bravement vos messages au répondeur de là-bas. Si j'y suis, au 01 56 40 37 37, 01 56 40 37 37.